Radio G 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix.
L'on peut dire qu'il se constitue maintenant de plus en plus une espèce de processus rationnellement universel de développement de tous les pays qui sortent des structures médiévales et coloniales.
Mehdi Ben Barka, 1965.
Et qu'on n'a pas le droit de qualifier ce processus de communiste, de socialiste ou de religieux, parce que ce processus s'impose de lui-même devant des problèmes semblables.
La situation actuelle est le fruit de notre action, parce que c'est nous qui dirigeons le monde. Nous, je parle des pays occidentaux, industriels, impérialistes, etc. C'est nous. Nous, les pays, je m'associe, parce que, bon, je suis français, je m'associe à notre histoire, à notre destin. Nous avons forgé ce monde-là. Maintenant, il nous retombe dessus en plus serré, globalement. Collectivement, nous ne sommes pas innocents de cette histoire-là.
Les divers gouvernements de nos républiques ont foulé à pieds joints l'état de droit, les droits de l'homme et la démocratie. C'est navrant, mais c'est une partie importante de l'obscure vérité.
En 65, l'opposant marocain Mehdi Ben Barka disparaissait en plein Paris.
Journal télévisé de France 3, février 2002.
Qui l'a tué? Qu'a-t-on fait de son cadavre? L'énigme politico-judiciaire perdure. Les nombreux juges d'instruction qui se sont succédés dans ce dossier se sont toujours heurtés au secret défense.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette émission d'histoire aujourd'hui autour de l'affaire Ben Barka. Ben Barka, homme politique de gauche marocain, opposant à la dictature marocaine et aussi militant internationaliste, enlevé à Paris en octobre 65 et assassiné très probablement sur impulsion des services secrets marocains, mais avec une multitude de complicités dans ce crime, car Ben Barka ne manquait pas d'ennemis. À noter qu'avec les copains profs d'histoire géo, André, Daniel et Philippe, nous avons enregistré cette émission le 12 novembre 2015, la veille du 13 donc, pour parler de cet article du Monde diplomatique, Ben Barka, un mort à la vie longue. À la lueur de l'actualité, les propos de nos copains profs d'histoire géo prennent hélas aujourd'hui un relief supplémentaire et imprévu. Que nous dirait Mehdi Ben Barka sur le monde d'aujourd'hui? Ben Barka, le laïc, et bien d'autres hommes éclairés, en leur temps, nous ont mis en garde contre les dangers des colonialismes anciens et nouveaux. Alors évidemment, l'histoire coloniale et néocoloniale n'explique pas tout, mais elle éclaire aussi des aspects du présent. Et dans cette triste saga qui dure depuis des siècles, sur plusieurs époques et plusieurs continents, la lugubre affaire Ben Barka va vous amener dans les méandres de la très sanglante histoire du Maroc, histoire que l'on évacue rapidement en disant que ce n'était pas une colonie, mais un protectorat, devenu en 56, sous l'œil bienveillant de la France, qui croyait y voir un gage de stabilité, une dictature monarchique teintée d'islam. Mais l'affaire Ben Barka passe aussi par les tréfonds de l'histoire secrète de la 5e République française. Et également à l'échelle internationale, Ben Barka dans l'histoire de la décolonisation des années 50-60, de l'émergence du tiers-monde et des pays non alignés, expérience combattue par le nouveau maître de la planète d'après 45, les États-Unis, qui prennent la place des anciennes puissances coloniales françaises et anglaises. L'affaire Ben Barka s'imbrique dans les clés de la compréhension du monde d'aujourd'hui. On en parle sans se flageller ni se jeter de cendre à la tête, mais en tentant de faire de l'histoire honnête.
Oh, Mehdi Ben Barka, Mehdi Zelana yo ya patolionzo, Mehdi Zelana yo ya Lumumba. Medin zela na yo ya Che Guevara, Medin zela na yo ya Malcolm X, Medin zela na yo ya Umniope, Medin zela na yo ya Bogandao, oh ya tiers monde, oh ya libération, ya pas peuple, Mehdi Ben Barka. Mehdi Ben Barka, Mehdi Ben Barka, Mehdi Ben Barka.
La police française enquête sur la disparition de M. Ben Barka, leader de l'opposition marocaine et créateur de l'Union nationale des forces populaires. Vendredi, M. Ben Barka aurait été mystérieusement enlevé devant le drugstore de Saint-Germain-des-Prés.
Interactualité, octobre 1965.
À Paris, le ministre de l'Intérieur a assuré le frère du disparu qu'il ne s'agissait pas là d'une opération de la police française. On incline à penser qu'il s'agit plutôt d'un enlèvement perpétré par des ennemis personnels ou politiques du chef de l'UNFP.
Qu'elles soient nouvelles ou anciennes, on évoque aujourd'hui les colonisations, leurs impacts sur le monde moderne, au travers d'une affaire emblématique, exemple d'un crime passé dont on ressent aujourd'hui les conséquences, la sinistre affaire Ben Barka, que nous avons eu envie d'évoquer après la lecture de cet article du Monde diplomatique, Ben Barka, un mort à la vie longue. C'est une histoire à cheval sur trois continents, de 1920 à 1965 jusqu'à nos jours, et qu'on survole avec les copains profs d'histoire géo. Salut Daniel.
Salut à tous.
Salut André.
Bonjour à tous.
Et Philippe, qui est ici notamment en tant que représentant de l'Association des Amis du Monde Diplomatique. Salut Philippe.
Bonjour à tous.
Ben Barka, un mort à la vie longue. Un article donc paru dans le Monde Diplomatique d'octobre 2015. Idéologue prolifique, travailleur acharné, rassembleur charismatique, Mehdi Ben Barka ne pouvait pas disparaître si facilement. En tout cas, pas dans les consciences de générations de militants. La mort de l'opposant marocain ne pouvait pas effacer la vie d'une figure de proue et sans tache du mouvement anti-impérialiste, victime de l'un des crimes politiques les plus marquants du XXe siècle. On le rappelle, Mehdi Ben Barka a été enlevé à Paris et très probablement assassiné le 29 octobre 1965, Philippe. Mais d'abord, on va revenir sur la figure de cet homme à la carrure internationale et pas seulement au Maroc.
Qui était Ben Barka? C'était à la fois un leader marocain et un leader du tiers-monde. Un interlocuteur de différents leaders du tiers-monde qui étaient Nasser, Égypte, Mao Tse-Tung, Chine, Ben Bella, Algérie, Kaunda, Zambie, Che Guevara, Amérique du Sud. Ben Barka, c'est un homme né en 1920 au Maroc, à Rabat, un élève brillant, diplômé en mathématiques, féru d'économie, et qui était d'abord un leader nationaliste et meneur du parti indépendantiste qui s'appelait l'Istiklal et précepteur du prince héritier, futur roi.
Hassan II.
Il était déporté dans le sud de l'Atlas par les autorités coloniales, c'est-à-dire françaises, en 1951, libéré en 1954 et est devenu, dans le combat de l'indépendance, le défenseur du petit peuple des campagnes et le promoteur de la réforme agraire. Il n'a pas voulu siéger au gouvernement en 1959. Il a fondé un parti qui s'appelait le Néo-Istiklal. Il est exilé en 1959, puis en 1962. Et enfin, condamné à mort par contumace en 1964. Il avait pris des positions à propos du conflit avec l'Algérie qui ne plaisait pas beaucoup aux autorités marocaines. Mais Mehdi Ben Barka n'était pas seulement un leader nationaliste marocain, il était aussi un leader du tiers-monde et il a voulu élargir le combat marocain en l'incluant dans une vision universelle. Bon, il est allé par exemple au Caire contre le néocolonialisme, il est allé à Moscou et à Pékin pour apaiser le différend sino-soviétique, il est allé à Damas pour apaiser le conflit entre les Nasseriens et les Baathistes, parti qui était alors au pouvoir à Damas. Et Ernesto Che Guevara, à Alger, l'a imposé comme président du comité préparatoire à la Tricontinentale, une alliance des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, une alliance anti-impérialiste et en pleine guerre froide. L'enlèvement, puis l'assassinat après torture de Mehdi Ben Barka a impliqué à la fois des services secrets marocains, de la police française, de la Pègre et même le Mossad, les services secrets israéliens. C'est dire qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait sa mort. Et très curieusement, il est revendiqué aujourd'hui au Maroc par beaucoup de courants politiques marocains, même si dans ce que le gouvernement marocain reconnaît de Ben Barka, il y a des aspects sur lesquels il insiste et d'autres sur lesquels il impose silence. après Mehdi Ben Barka, ce sont curieusement deux généraux, le général Oufkir et le général Dlimi, qui disparaissent en 1972 et 1983, parce que alors, le général Oufkir est celui qui apparemment a présidé à l'enlèvement de Ben Barka.
C'était l'exécuteur des bases œuvres d'Assane II. Hein.
Mais plus tard, le général Oufkir a comploté contre le roi et il a été éliminé par le général Dlimi. Et le général Dlimi, à son tour, a été également éliminé par le roi. Donc le pouvoir marocain, je disais, a eu à son égard une attitude très sélective, très ambiguë. Ben Barka traitait de l'abomination de la désolation au Maroc de républicain communiste. Ben Barka incarnait le Maroc qui aurait pu voir le jour dans l'indépendance et le socialisme plutôt que, et la formule est très belle, dans la marocanisation de la colonisation. Le pouvoir donc a baptisé des artères de grandes villes du nom de Ben Barka et permet qu'on se réfère à lui, mais seulement jusqu'en 1961. Après, c'est fini, persona non grata. On ne le célèbre que comme président de l'Assemblée consultative de 1956 à 1959. Pour reprendre le titre,
Ben Barka, un mort à la vie longue.
Et 50 ans après, la plus ancienne instruction pénale de la justice française n'est toujours pas close. Et l'abominable secret, évoqué par François Mitterrand, reste bien gardé dans cette affaire que le général de Gaulle jugeait inadmissible, inacceptable, insoutenable et qui entraîna une brouille de plusieurs années entre les deux pays. La police française, il est confiant, il lui montrait des cartes de police, la police française l'a enlevé et l'a remis à des membres de la pègre française. Et aujourd'hui, il ne fait nul doute que Ben Barka demeure la source morale qui dynamise la capacité de régénérescence des idées progressistes dans une nation miné par ces deux idéologies mortifères que sont le fondamentalisme et le néolibéralisme.
Avant d'aller plus loin dans cette affaire Ben Barka, vous allez maintenant entendre l'un des très rares enregistrements de sa voix.
L'on peut dire qu'il se constitue maintenant, de plus en plus, une espèce de processus rationnellement universel, le développement de tous les pays qui sortent des structures médiévales et coloniales. Et qu'on n'a pas le droit de qualifier ce processus de communiste, de socialiste ou de religieux, parce que ce processus s'impose de lui-même devant des problèmes semblables.
La voix de Ben Barka, intellectuel formé à l'école de la République française, voix qui aurait pu ressembler à celle du Maroc et du tiers-monde d'aujourd'hui, voix que l'on a fait taire. Et nous allons voir avec André dans quel contexte international. Il vous faut pour cela remonter jusqu'aux années 50-60 dans une France qui a du mal à ne plus se considérer comme une puissance coloniale.
65, c'est la fin des colonies françaises. Puisque la décolonisation française, ça commence en 54-55 et ça se termine en 62. Si on prend le mot colonie au sens strict du terme, la France n'a plus de colonie en 1965 et pourtant il y a encore des problèmes coloniaux. À la même époque que l'affaire Ben Barka, il y a une guerre au Cameroun dont bien sûr on n'entend pas parler parce que c'est déjà l'habitude des médias d'éviter de parler des choses importantes. Il y a une guerre sanglante au Cameroun où l'armée camerounaise soutenue par les barbouzes et les conseillers, l'armée française, liquide des milliers de gens. Parce qu'il y a des opposants camerounais à la politique de néocolonialisme. Parce que après la colonisation, il y a le néocolonialisme. On veut bien partir de ces pays-là, mais faut qu'on y maintienne nos intérêts économiques, nos affaires pétrolières, portuaires, nos affaires minières, nos affaires dans les plantations coloniales, les arachides, enfin, tout ce que vous voulez. Il y a des intérêts français. Alors on veut bien leur laisser un drapeau, une armée, un gouvernement, un parlement, tous les apparats de l'État. Mais on garde le pognon quand même, on garde les affaires. Et pour ça, on a besoin de complices dans ces pays-là. dévouée à nos intérêts impérialistes, parce que c'est de l'impérialisme au sens propre du terme, c'est-à-dire une domination économique, hein, qui se traduit par une domination politique, évidemment.
En fait, c'est vachement plus malin de la part de ces nouveaux colonisateurs, parce qu'on économise en frais d'armée, de gestionnaires sur place, etc. On désigne sur place des gardes-chiourmes indigènes, hein, des Mobutus, des Bongos.
Oui, bien sûr.
C'est une sacrée économie, en fait.
Si les Anglais qui ont compris ça en premier... Nous, notre bourgeoisie, elle a été connement colonialiste longtemps. La 4ème République a été un régime colonialiste, hein, qui a fait des guerres coloniales. En dehors du parti communiste, tous les partis sont colonialistes, hein, y compris les socialistes de l'époque, qui sont les premiers, hein, à avoir voté les crédits militaires et les interventions et les massacres coloniaux que nous avons faits à part de 1945 à 1958.
L'ordre est revenu dans la grande île et les unes après les autres, les factions entraînées dans la rébellion ont fait leur soumission.
Propagande française de 1947-48. Massacre de Madagascar, commis sous gouvernement socialiste, des dizaines de milliers de morts.
Dans la région de Tamatave, les chefs d'un groupe dissident viennent solliciter du représentant de la France le pardon et l'oubli. En présence de la population du village, attentive et silencieuse, la soumission est acceptée. Mais la coutume malgache exige qu'elle soit scellée par le serment du sang. Marqués au front du sang expiatoire, ces égarés d'hier reprendront place dans cette communauté de l'Union française qui ne peut vivre et prospérer que dans le calme et la paix.
Daniel.
Les Britanniques ont compris plus vite que les Français, c'est-à-dire que à partir de 45, ils passent au néocolonialisme. Mais ils ont mené très longtemps des guerres coloniales. On prend toujours l'exemple de la rapide décolonisation de l'Inde, 45-47, 2 ans. Ah oui, Gandhi a passé la moitié de sa vie dans les prisons anglaises. Pendant des dizaines d'années, la Grande-Bretagne a mitraillé les nationalistes indiens pendant en gros 30 ans.
Avant de passer à une solution plus soft, entre guillemets, hein, parce que on va parler des affaires algériennes, de Focard et compagnie, c'est loin d'être soft, hein, c'est émaillé de massacres, d'assassinats ignobles, affreux. Avant, il y a une période où on essaye de s'agripper à nos colonies parce que la France est affaiblie, il faut qu'elle garde une certaine envergure, et même De Gaulle, qu'on a baptisé le grand décolonisateur, c'est seulement à partir de 58 qu'il s'intéresse à la décolonisation. Mais avant, De Gaulle et ses partisans sont partisans des guerres coloniales, de rien lâcher du tout, ils sont même hyper colonialistes. De Gaulle, malgré son discours de Brazzaville 1944, qu'on présente comme une sorte de préambule à la décolonisation, dans le discours de Brazzaville, De Gaulle ne parle pas de décolonisation, il parle d'une vague association, etc. Et d'ailleurs, la 4ème République, lorsqu'elle se fonde en 46, tout en exposant les principes essentiels de décolonisation, d'égalité des peuples, etc., de citoyenneté commune, elle supprime l'empire colonial. Le mot est supprimé, mais remplacé par quoi ? Remplacé par Union française. L'Union française, en fait, c'est l'empire colonial français. Continuez. Donc la France a beaucoup de mal.
On commence plus facilement une guerre qu'on ne la finit. C'est bien connu. Et celle d'Algérie ne manque pas à la règle. Le cessez-le-feu est trop proche et l'avenir immédiat est trop flou encore pour que les habitudes se perdent.
Un phénomène net, indiscutable, universel est apparu entre les deux guerres, c'est la décolonisation. Décoloniser, c'est le fait de reconnaître l'émancipation d'un peuple. On assiste ainsi à la naissance de nouvelles nations. La décolonisation, mot que vous ne trouverez dans aucun dictionnaire, caractérise le XXe siècle.
Si nous revenons en 1965, la France, après une sanglante guerre d'Algérie, entre autres, hein, 1954-1962, s'est dégagée de ses colonies africaines, en gros, hein, et a établi avec les pays auxquels elle a accordé l'indépendance, quel type de relations ? Des relations néocoloniales. On installe dans presque tous les pays qui ont obtenu leur indépendance des gens dévoués à nos intérêts. Et c'est le cas aussi du Maroc, qui n'était pas une colonie, qui était un protectorat. On installe, si possible, une royauté qui ne soit pas contradictoire avec les intérêts français. Malheureusement, au Maroc, il y a une opposition qui n'est pas une opposition qui veut laisser ce type de relation néocoloniale. Et c'est le cas de Ben Barka. Que dit-il en décembre 63 ? Toute politique en Afrique qui ne passe pas par la destruction radicale des structures féodales et capitalo-colonial, c'est-à-dire du capitalisme colonial, ne peut que faire le jeu du néocolonialisme. Malgré ses prétentions à l'industrialisation, à la planification, car tous ces projets sont bâtis sur du vent. En effet, lorsque la France se désengage de ses colonies, elle promet à ses anciennes colonies de les aider à se développer dans des programmes de développement, de planification, de construction de barrages, etc., etc., en y laissant des coopérants, beaucoup de coopérants militaires et civils. Ce paravent de la coopération se fait en laissant les vieilles structures coloniales. Par exemple, dans certains pays, la grande propriété de la terre, la propriété privée des mines, des parfois même des chemins de fer, des installations portuaires, etc. C'est-à-dire qu'en fait, bon, elle y maintient ses intérêts. Mais tout ça est ripolliné, en quelque sorte.
Notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts ? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons.
C'est tellement stratégique, cette affaire, que les affaires africaines, à partir donc de 1962, vont être dévolues à une cellule africaine qui est à l'Élysée, directement sous le contrôle de De Gaulle, et qui est dirigée par un certain Jacques Faucard, qui est une crapule, et qui est le chef des barbouzes, des tueurs français, le haut commanditaire des opérations militaires et barbouzesques de la France en Afrique. Et c'est lui qui est à l'origine de tous les coups d'État, les coups fourrés, les coups sordides pour maintenir le gangstérisme néocolonial français en Algérie.
Certes, dans cette histoire, De Gaulle, il a toujours les mains propres, hein, dans la mesure où les crimes et les basses œuvres, il est fait exécuter par Faucard, qui a d'ailleurs son bureau à côté du sien. Hein. Et c'est ce qu'on appelle la France-Afrique.
Ça implique le fonctionnement du système gaullien dès le départ. Aussi bien sur l'affaire algérienne, au départ c'est l'affaire algérienne, que sur ce qui va survenir après. Les rapports assez complexes de De Gaulle, en particulier sur l'affaire Ben Barka, parce que l'affaire Ben Barka implique aussi des problèmes internationaux. Il nous faudra parler, au moment de l'affaire Ben Barka, donc dans ce début des années 60, du mouvement international anti-impérialiste qui se développe dans le monde. Il nous faudrait étudier, en même temps que la décolonisation, le développement du mouvement anti-impérialiste. Tiers-mondiste, on l'a appelé aussi tiers-mondiste.
Non-aligné.
Voilà aussi, ça s'appelle comme ça aussi. Alors c'est une affaire assez complexe. Ça démarre dans les années 50 en Indonésie, à Bandung. En 1955, le dirigeant indonésien Sukarno, qui a conquis de haute lutte l'indépendance de son pays sur les Pays-Bas, car c'était les Pays-Bas qui étaient en fait le colonisateur de l'Indonésie actuelle. Eh bien, Sukarno convoque à Bandung, au début de l'indépendance indonésienne, tous les leaders de ce tiers-monde qui veut se dégager de l'emprise des grands pays impérialistes, dont les États-Unis. Il n'y a pas que l'impérialisme anglais, français, hollandais, il y a aussi l'impérialisme américain. Et c'est même l'impérialisme dominant après la guerre. Sur tous les fronts, il y a les services secrets américains qui sont au service des grands intérêts économiques de l'Amérique et qui multiplient assassinats, coups d'État, renversements de dirigeants, etc. Enfin, bon, et cette lutte sourde des services secrets et des armées aussi occidentales contre les mouvements d'indépendance, ça se déroule sur un fond de guerre froide. Car à partir de 1947, chacun le sait, débute l'affrontement entre le bloc soviétique et le bloc occidental, dominé par les États-Unis. Et bien sûr, dans cette lutte-là, tous les mouvements d'indépendance vont être interprétés comme ils se sont dirigés contre des gouvernements occidentaux. Tous, ils vont être interprétés comme des mouvements communistes, ou pro-communistes, ou pro-soviétiques, peu importe. On les diabolise, ces gens qui veulent récupérer les richesses minières, odieux, n'est-ce pas, qui veulent récupérer les...
Leur souveraineté.
Tout simplement leur souveraineté, leur vraie souveraineté, qui est aussi une souveraineté économique. Ces gens vont être interprétés comme des communistes.
Tous les pays qui sortent des structures médiévales et coloniales. On n'a pas le droit de qualifier ce processus de communiste, ou de socialiste, ou de religieux, parce que ce processus s'impose de lui-même devant des problèmes semblables.
qui on accuse d'être communistes, des gens qui veulent la libération de leur territoire, leur liberté. Ça va être systématique. Les États-Unis, d'ailleurs, vont aider, soi-disant nations anticoloniales, vont aider les puissances coloniales à maintenir leur domination sur leurs colonies, hein. C'est une vaste blague. En fait, après la guerre, les États-Unis, certes, sont contre le statut colonial, parce que ce sont des marchés réservés à la France ou à l'Angleterre ou à la Belgique. Ils sont contre ce statut-là. Eux, ils sont pour pouvoir pénétrer sur tous les marchés. C'est ça le problème des États-Unis, c'est mondialisation. Mondialiser le monde, c'est-à-dire de permettre la pénétration des capitaux et des marchandises dans le monde entier. Or, le statut colonial empêche ça, puisque c'est un protectionnisme. Les colonies sont protégées par leur métropole, et qui se gardent le monopole de leurs fournitures en produits industriels ou autres, n'est-ce pas ? En revanche, pour ce qui est du gouvernement qui doit succéder au gouvernement colonial, ils ne veulent pas de communistes, ni de socialistes, ni même simplement de progressistes. Je rappelle au passage que Castro n'est pas communiste lorsqu'il fait sa révolution. Il veut pouvoir avoir la liberté, la souveraineté nationale sur Cuba. À qui va-t-il s'affronter lors de sa révolution ? Ben, aux sociétés américaines qui possèdent le pays. À partir de ce moment-là, il est baptisé de communiste. Et il va devoir se tourner vers les soviétiques. Alors bien sûr, les soviétiques jouent un jeu. Tout ce qui est anti-américain, anti-impérialiste, c'est bon pour eux, hein. Et donc ils vont fournir des armes, une aide à ces mouvements de libération nationale. C'est pour ça que ça va être difficile à ces pays qui veulent leur indépendance de se dégager de l'affrontement Est-Ouest. Hein, les pays comme la Chine, même Cuba, et l'Inde, etc., ne veulent pas rentrer dans l'affrontement atomique, en particulier Est-Ouest. C'était pas leur problème.
D'où l'expression non-aligné et tiers-monde. Hein. Le tiers-monde, c'est trois mondes. Le premier, c'est le monde occidental, anciennement industrialisé. Le deuxième, c'est le monde soviétique, récemment industrialisé. Et le tiers-monde, c'est celui qui ne l'est pas encore, qui va naître effectivement du vaste mouvement de décolonisation. Et la conférence de Bandung et la conférence de la tricontinentale que devait présider Ben Barka, c'est une présidente des non-alignés, c'est-à-dire d'un certain nombre de pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine qui essayent de trouver une troisième voie, en quelque sorte, entre les deux blocs, non alignés. Ben Barka est l'exemple même d'un leader indépendantiste d'un pays anciennement colonisé qui va être éliminé par une sorte de coproduction entre le nouveau pouvoir du pays décolonisé, c'est-à-dire le pouvoir de la monarchie marocaine, avec le roi Hassan II.
Vous parlez de la dictature d'Hassan II.
Oui, moi j'ai travaillé au Maroc.
On parle pas du roi là-bas. Hein.
Ce régime-là a été mis en place, favorisé, en alliance avec l'ancienne puissance coloniale, avec ce qu'on va appeler rapidement la France-Afrique, mais peut-être plus largement par des services secrets occidentaux, en particulier États-Unis et israéliens. Ben Barka est un enfant du peuple qui a obtenu son bac, qui a fait des études de mathématiques, qui a été un des rares bacheliers. En 43 ans de protectorat, la colonisation française a produit moins de 600 bacheliers marocains. Voyez la performance, on est loin des 80% d'une classe d'âge au bac. Voilà.
On a au moins apporté les lumières à 600 Marocains, c'est déjà pas mal.
Voilà. Et Ben Barka, il est l'enfant de cette école, de l'école française, de l'école de la colonisation. Il est convaincu des valeurs de la République telles qu'elles s'affichent sur les frontons des bâtiments publics en France.
Ça a toujours été le problème du colonisateur français, finalement, hein, qui colonise au nom de liberté, égalité, fraternité. Faut croire qu'il y avait de ces petits Marocains qui avaient tendu l'oreille.
Et ceux qui ont répondu, chiche, on y va sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Ben Barka est un cas exemplaire de ce type d'enfant formé par le colonisateur. Et il va être, dans son jeune temps, le professeur de mathématiques du prince héritier.
Futur Hassan II.
Mohamed V confie son fils, car il veut qu'il ait une bonne formation. Il a à peine 20 ans, Hassan II, hein, à ce moment-là. Pour sa formation militaire, il le confie à Oufkir.
Le fameux et sinistre général Oufkir.
Voilà. Et il y a deux précepteurs. Un précepteur civil, Ben Barka, un précepteur militaire, Oufkir, car le prince Hassan est bombardé chef d'état-major des armées, sauf que c'est un gamin qui connaît rien. Donc on lui met à côté un soldat expérimenté, formé lui aussi. par l'armée française. Il a donc deux précepteurs qui sont le produit de la colonisation.
Pour assurer la stabilité d'une région, rien de tel qu'un bon vieux régime autoritaire, et pourquoi pas de droit divin, où une assemblée consultative sans pouvoir sert de paravent à la dictature. Dans ce Maroc des années 50, Ben Barka est un homme jeune et plein d'énergie qui croit encore au changement.
كلهم كيشهدوا بانه المغرب غادي يمكن له بالفضل ديال الشبيبه ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يعمل معجزه
Ensuite, il est un leader nationaliste dans l'Istiklal, le parti indépendantiste. Mais le parti de l'Istiklal est essentiellement formé d'une bourgeoisie marocaine qui entend supplanter l'ancienne classe coloniale. C'est ce que Ben Barka appelle la marocanisation de la colonisation. Et c'est lorsqu'il s'aperçoit de ça qu'il prend progressivement ses distances avec le parti de l'Istiklal. Progressivement, car il va être le premier président de l'Assemblée nationale consultative pendant plusieurs années, qui est octroyé en quelque sorte par Mohamed V, le père d'Hassan II, pour établir une sorte de monarchie nationale, pas véritablement constitutionnelle, puisque l'Assemblée est bien élue. Mais elle n'est que consultative. On est quasiment dans un système d'ancien régime.
Le souverain, pour donner une illusion de souplesse démocratique, voilà, crée un appendice qui ne sert absolument à rien, en fait. Voilà. C'est-à-dire, on vous consulte, mais c'est ce qui veut dire que votre avis...
Ben Barka évolue, hein. Il n'est pas, à 30 ans, l'homme de 45 ans lorsqu'il va être assassiné. Au départ, il est loyal. S'il accepte cette position, c'est qu'il espère pouvoir faire évoluer les choses dans un sens plus démocratique. Il s'aperçoit que ni le pouvoir de Mohamed V, ni le parti de l'Istiklal vont dans cette voie. Il va donc progressivement, au bout de quelques années, se mettre en retrait de l'Istiklal et fonder un autre parti, néo-Istiklal, et puis finalement l'Union Nationale des Forces Populaires, UNFP, qui va prendre une position beaucoup plus radicale au sein de la politique marocaine, à savoir une politique de développement économique propre, qui prône une réforme agraire, prône une politique sociale, une politique socialisante, au sens de l'époque, hein, des années 60, pas socialisante au sens d'aujourd'hui. Il fait progressivement une dérive à gauche. Et il sera toujours en délicatesse avec les partis dont il sera membre. L'Istiklal, parce qu'il trouve trop bourgeois pour parler vite, et même avec l'UNFP.
Qu'il a cofondé.
Il en est un leader connu, charismatique, mais il n'en est pas le dirigeant. Et à nouveau, il va se trouver en délicatesse. En particulier parce que le parti nouvellement créé évolue rapidement vers des positions quasiment de coup d'État. Et il y a un projet d'assassinat d'Hassan II. Entre-temps, son père est mort, donc le prince Hassan est devenu le roi Hassan II. Et le projet est établi en dehors du consentement de Ben Barka. Les dirigeants du néo-Istiklal, l'UNFP, disent « Ben Barka n'est pas un homme sûr pour un projet comme ceci ». D'abord parce que Ben Barka n'est pas un partisan de l'assassinat politique. Et deuxièmement parce que Ben Barka a été le précepteur d'Hassan II. Il a connu un enfant. Et donc le projet est mené sans qu'il n'en soit ni l'auteur, ni probablement tout à fait au courant. Le projet va être éventé par les services de police d'Hassan II et ça va déclencher une grave répression contre le mouvement de Ben Barka. Sauf que le pouvoir marocain ne va pas faire le tri entre Ben Barka et les autres. Et effectivement, il y aura des exécutions, des condamnations à mort. Entre-temps, Ben Barka a quitté le Maroc, et il va donc être condamné à mort par contumace, c'est-à-dire en son absence. S'il rentre au Maroc, il risque d'être exécuté.
Après les colonisations françaises et espagnoles, le peuple marocain subit donc dès 56 la dictature royale. Le début des années 60 voit au Maroc une série d'émeutes populaires écrasées dans le sang par le jeune Hassan II qui apprend vite, mais qui tente de jouer les souverains éclairés, comme ici en mars 65, après les émeutes de Casablanca.
lorsque j'ai analysé les problèmes qui ont amené l'explosion de Casablanca, sans pour autant la justifier, sans pour autant donner raison aux émeutes de la rue, que l'ordre a été obligé de mater, parfois avec beaucoup de dureté. Je me suis vu dans l'obligation d'être extrêmement honnête vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon peuple. Et beaucoup d'erreurs qui ont été à la base de ces émeutes auraient pu, à mon avis, être évitées.
Hassan II est encore très jeune. C'est un homme intelligent et un fin politique. On peut être dictateur, intelligent et fin politique. On n'est pas forcément un gros con quand on est un dictateur. Et ce n'est pas le cas d'Hassan II. Il se rend compte qu'il est en train de dériver et qu'il a le choix entre deux voies possibles. Ou tenir bon sur la répression, ou tenter une forme de réconciliation nationale. Hassan II écrit à Ben Barka, son ancien professeur. Ben Barka est en France, il est réfugié en France. « Professeur, j'ai une équation marocaine à résoudre. » Et il lui demande de rentrer au Maroc et de participer à la résolution de l'équation. Ben Barka refuse. Premier acte qu'il mène sur sa condamnation à mort. Donc, Hassan II choisit la deuxième voie, la répression à outrance. À partir de ce moment-là, Ben Barka est un condamné à mort pour le pouvoir royal marocain. C'est indiscutable. Deuxième piste internationale. Hassan II comprend que s'il veut faire passer un pouvoir ultra-autoritaire et de plus en plus répressif, il faut qu'il gagne au moins certains cœurs et certaines âmes parmi les Marocains. Il y a une recette vieille comme le monde que le jeune Hassan va appliquer. Trouver une cause commune, une sorte d'union sacrée à la marocaine qui unifie et qui rejette comme des éléments anti-marocains ceux qui n'y entrent pas.
En général, quand un dictateur ou un vilain chef d'État veut faire ça, il n'y a que deux solutions. Soit son pays gagne au foot, soit on fait une guerre.
Et quelle va être la guerre sacrée du Maroc? L'affrontement avec l'Algérie nouvellement indépendante, 62, sur le Sahara occidental, au sud du Maroc, qui permettrait à l'Algérie d'avoir un accès sur l'océan Atlantique. Bon, les deux pays se disputent l'affaire et Hassan II va... tout au long de son règne, la marche verte, en fait, l'immense majorité des Marocains, même certains opposants, vont marcher dans la... ils se font piéger par la fameuse union sacrée que, on a vu ça, ça marche dans de nombreux cas. Or, Ben Barka va-t-il rentrer dans l'union sacrée et en quelque sorte obtenir une sorte d'absolution? Sans doute que le pouvoir royal marocain l'espérait ou le souhaitait. Eh bien, Ben Barka va refuser. Ben Barka, c'est aussi un ami des leaders algériens qui viennent depuis 2, 3, 4 ans d'avoir leur indépendance. Il est un ami personnel de Ben Bella. À ce moment-là, en 63-4, il vit autant à Paris qu'à Alger, accueilli en privé par Ben Bella, et il ne prend pas le parti du Maroc. Il ne prend pas non plus le parti de l'Algérie. Sa thèse, c'est l'Algérie et le Maroc sont deux pays frères, ils n'ont pas à se faire la guerre. Sur la question du Sahara occidental, mettons-nous autour de la table, négocions, trouvons un accord. Il est donc non seulement un condamné à mort au Maroc, mais un traître à la patrie. Son cas s'aggrave de mois en mois et d'année en année.
Affaire maghrébine, à Rabat, le tribunal militaire a condamné à mort aujourd'hui par contumace deux personnalités de gauche reconnues coupables d'atteinte à la sécurité de l'État.
Il s'agit de messieurs Ben Barka et Berada. Le mois dernier, au cours des combats algéro-marocains, messieurs Ben Barka et Berada avaient publiquement invité les Marocains à se révolter et à renverser le roi Hassan II. Ils vivent actuellement à l'étranger.
Troisième élément. Comme tous les personnages charismatiques brillants, il attise autant les haines que l'admiration. Et il va développer une stature mondiale en devenant un des leaders du tiers-mondisme, du non-alignement, qui va s'appeler à ce moment-là la tricontinentale. On est 10 ans après la conférence de Bandung en 65. Et la conférence de Bandung des non-alignés va se renouveler avec la tricontinentale, c'est-à-dire des pays nouvellement décolonisés, anciennement dépendants, qui essaient de trouver une troisième voie de non-alignés entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Et dans ces pays phares du non-alignement, il y a Cuba, il y a la Chine, un certain nombre de pays africains, asiatiques et latino-américains.
La solidaridad con Vietnam se manifiesta en la lucha de cada pueblo contra el imperialismo.
Le Vietnam de deux formes différentes.
Podemos ayudar a Vietnam por medio de dos formas diferentes.
D'abord, en ouvrant des fronts de lutte partout où nous le pouvons.
Ben Barka à La Havane, Cuba, 1965.
Primero, abriendo frentes de lucha en todas partes donde podamos.
Donc chacun de nos peuples, en luttant contre l'impérialisme, aide le Vietnam.
Cada uno de nuestros pueblos luchando contra el imperialismo ayuda a Vietnam.
Pour le bloc occidental, la tricontinentale est évidemment un ennemi à battre. Et cette fois-ci, entrent en jeu les États-Unis. La première conférence de la tricontinentale devait se tenir à La Havane, Cuba. Hein, je vous fais pas un dessin. L'ennemi affreux des États-Unis. C'est à ce moment-là qu'intervient la liquidation de Ben Barka à Paris. Donc il a conjugué, si vous voulez, sur sa tête, l'opposition politique interne par rapport à la monarchie marocaine, en douceur à l'époque de Mohamed V, de plus en plus virulente jusqu'à la rupture avec Hassan II, l'accusation d'être un traître à la patrie marocaine sur la question avec l'Algérie et le Sahara occidental, et il devient un ennemi universel pour l'Occident avec la tricontinentale. Son compte est bon.
Rien, absolument rien, n'indique que le contre-espionnage et la police en tant que telle, dans leur ensemble, aient connu l'opération et à plus forte raison qu'il l'ait couverte. Au contraire.
Ben Barka, enlevé à Paris en 1965, disparu corps et bien. André, est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que le général de Gaulle ait été impliqué là-dedans? D'autant plus qu'il semblerait qu'il avait peut-être rendez-vous avec Ben Barka 3 jours après son enlèvement.
Eh bien, vraisemblablement, non. Vraisemblablement, de Gaulle n'est pas impliqué dans la décision de l'assassinat de Ben Barka.
Bon, Philippe Vianney, Nouvel Observateur. Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de donner au peuple français, au moment où vous sollicitiez ses suffrages pour l'élection présidentielle, les informations qui lui auraient permis de juger l'action de votre gouvernement dans l'affaire Ben Barka, informations que la presse que vous critiquiez tout à l'heure a dû tenter seule de reconstituer?
C'est l'effet de mon inexpérience.
Certes, on sait que de Gaulle laissait faire l'arrière-cuisine de ses officines, hein, ne voulait pas voir comment la tambouille était faite, et souvent il y a eu des choses qui ont été faites par les services secrets gaulliens. De Gaulle voulait pas voir, voulait pas savoir des choses pas reluisantes non plus. Donc il s'agit pas pour moi de laver l'honneur des services secrets gaulliens, loin de là. Hein. Mais il semble bien quand même que de Gaulle n'ait pas décidé, et même ait été très irrité par l'assassinat de Ben Barka. Parce qu'en effet, de Gaulle pensait qu'il était intéressant de nouer des rapports avec Ben Barka et avec la tricontinentale. De Gaulle est dans la recherche d'une diplomatie qui soit une diplomatie ni aligné sur Moscou, bien évidemment, mais ni aligné également sur les États-Unis. En 66, la même année, de Gaulle décide de retirer la France du commandement intégré de l'OTAN, etc. Donc, de Gaulle a une stratégie de non-alignement. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il rejoint les rangs de l'international communiste, enfin, qui n'existait plus d'ailleurs à l'époque. Il s'agit d'une politique d'indépendance diplomatique et militaire de la France à l'égard de l'énorme puissance de l'impérialisme américain. Dans cette politique, il n'y était pas du tout indifférent de discuter avec Ben Barka, qui est un théoricien de ce non-alignement. Si les services secrets, les barbouzes françaises, ont participé directement à cet enlèvement et à cet assassinat, il semble bien que ce soit à l'aide de la CIA et du Mossad, c'est-à-dire des services secrets américains et israéliens. On sait qu'il y a eu des coups de téléphone extrêmement importants.
Ce fameux jour d'octobre 65, Ben Barka, à la sortie de la brasserie Lip, est abordé par deux policiers français qui lui montrent d'authentiques cartes de police françaises.
Il ne se méfie pas. Et pourquoi fait-il confiance ? Pour plein de raisons. C'est un enfant de l'école républicaine, etc. Il est baigné par les valeurs de la République, comme on dit aujourd'hui. Mais quelques jours après, il a rendez-vous avec le président de la République.
Il a rendez-vous avec De Gaulle.
Il se laisse avoir. Et il ne peut pas penser que c'est un coup fourré qui va l'amener à la mort. Et il baisse la garde aussi parce que, il faut le préciser, il était dans un état d'extrême fatigue. Enfin, il se dépensait sur toutes les scènes internationales. Il n'en pouvait plus. Il est un homme épuisé. Il ne peut pas imaginer ce qui l'attend.
Donc, deux flics français enlève Ben Barka en plein jour à Paris et le refourgue à des truands. Alors il se dit d'ailleurs que l'un d'entre eux avait magouillé avec la Gestapo française. Enfin,
oui, on ne sait pas encore dans les détails tout et qui. Mais on sait par exemple qu'en 1965, le colonel marocain Dlimi, impliqué dans la disparition de Ben Barka, envoie un message au Mossad, service secret israélien, fort bien fait, hein. Déjà à cette époque-là. Nous vous félicitons d'avoir montré ce que vous êtes capable de faire avec l'enlèvement de Eichmann. Vous savez que les services de secret israéliens ont enlevé Eichmann et l'ont ramené en Israël pour le juger. Dlimi continue, nous comptons sur vous pour quelque chose de pareil qui nous préoccupe. Bon, c'est assez clair pour penser que le Mossad a prêté la main à cet assassinat. Ce qu'on peut ajouter, c'est que les dirigeants israéliens entendent soigner leurs relations avec le Maroc. Parce que le Maroc occupe une place singulière dans le monde arabe, surgi de la décolonisation. Le 27 novembre 1961, l'opération Yakin commence. 180 000 juifs marocains gagnent la terre promise en moins de 5 ans. Ça a été organisé par Oufkir, qui est un ami des Israéliens, qui admire Israël et qui organise ainsi le 180 000 juifs marocains. C'est un service que rend Oufkir aux Israéliens et les Israéliens renvoient l'ascenseur. C'est sans doute vrai.
L'État d'Israël est assez intéressé par la position du Maroc. Dans le conflit entre Israël et les Palestiniens à l'époque, les Palestiniens étant soutenus par les Soviétiques, la position d'Hassan II est une sorte de position de neutralité pour un pays arabo-musulman. Il y a toute une série de raisons qui expliquent une certaine coopération possible entre les services secrets du Maroc et les services secrets d'Israël. Ils sont pas exactement sur la même ligne, mais ils ont des points possibles de coopération.
Tous ces gens qui veulent la peau de Ben Barka, israéliens, Hassan II, américains, apparemment une fraction barbouzarde française, parce que tous les barbouzes sont pas sur la même ligne. Qui ?
Sur les fractions barbouzardes, il faut savoir, en 65, la guerre d'Algérie est terminée depuis 3 ans. Les services secrets, etc., les barbouzes, les SAC, sections d'action civique qui sont développées liées à l'action de l'OAS, ils sont parfaitement en état de marche. Et liquider un arabe nationaliste, indépendantiste, ça les venge un petit peu de l'échec final sur la guerre d'Algérie.
L'affaire Ben Barka est le scandale retentissant de l'année 65. L'opposition à De Gaulle s'en donne à cœur joie, comme ici le député socialiste Claude Fusier.
Ainsi, en France, à l'automne 1965, des policiers chevronnés considèrent comme tout à fait naturel, comme tout à fait normal, qu'un secrétaire général de la présidence de la République et qu'un directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur donnent l'ordre d'arrêter sans mandat un homme politique étranger, de l'enfermer dans une maison privée et de le laisser à la garde de gangsters. Quand les choses en viennent à ce point, il ne s'agit pas d'un accident, il ne s'agit pas d'une erreur, il s'agit d'un système. Et c'est ce système politico-policier que nous entendons aujourd'hui combattre et que nous voulons demain détruire.
Pour les gens qui voudraient en savoir davantage, je renvoie à une histoire déjà un petit peu ancienne, que ça doit avoir une quinzaine ou une vingtaine d'années, mais qui reste un bouquin extraordinaire. Ça s'appelle « L'histoire secrète de la Ve République » sous la direction de Faligo et Guinel. aux éditions La Découverte. C'est absolument remarquable. On y a toute la vraie histoire de la Ve République, qui est en grande partie une histoire secrète. Alors je sais que nos ennemis vont crier au complotisme, etc., mais désolé de leur rebrousser le poil, mais c'est vrai. C'est-à-dire que cette histoire, on la raconte pas, évidemment, et les médias encore moins, évidemment, parce que c'est des histoires qui sont pas avouables. Alors cette histoire, elle est secrète, mais quand même, il y a des choses qui en transparaissent, évidemment. On peut pas tenir entièrement secret des opérations dont certaines comportaient des milliers d'hommes, beaucoup d'argent, du matériel, des mouvements qui sont visibles, et des témoignages. Tous les gens sont pas morts. On sait en gros ce qui s'est passé. Or, des fois, dans le détail, on sait pas qui a mis le poison dans le, dans le verre, qui a donné le coup de poignard. Mais on sait qui a commandité ces choses-là. Or, cette histoire, elle est sinistre, aussi bien sur le territoire métropolitain, la France, que dans les territoires que nous, nous entendions continuer à contrôler économiquement. Je renvoie les auditeurs à cette histoire secrète de la Ve République. Très beau travail collectif. Il y a tout dedans, c'est pas beau. Mais il faut bien réfléchir que c'est sur cette histoire-là, qui est pas belle et qui est pas spécialement démocratique, qu'est fondée notre République d'aujourd'hui. Hein, les gens qui ont aujourd'hui le mot République, 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 hein, il y a même, paraît-il, un parti qui s'est proclamé les Républicains et qui est d'ailleurs héritier de cette histoire gaullienne, pas toujours très ragoûtante. Hein. Alors ça laisse à penser hein, sur la qualité morale de ces gens-là.
Parle de la République, des droits de l'homme, de l'état de droit. Or, c'est vrai que notre République, ou pas exactement notre République, les divers gouvernements de notre ou de nos républiques ont foulé à pieds joints l'état de droit, les droits de l'homme et la démocratie. C'est navrant, mais c'est une partie importante de l'obscure vérité.
C'est bientôt la fin de cette émission sur l'affaire Ben Barka qui nous parle aussi de ce qu'aurait pu devenir le monde si de 1950 à nos jours, les colonisateurs anciens et nouveaux, avec leurs marionnettes, les dictateurs installés à leur service, comme la monarchie marocaine, si les colonisateurs n'avaient pas systématiquement exterminé l'élite laïque de nombre de ces pays émergents. On peut les regretter, ces brillantes figures indépendantistes de la décolonisation, intellectuelles parfois formées par l'école de la République française, liberté, égalité, fraternité, éradiquées alors qu'ils offraient le dialogue et n'aspiraient qu'à leur indépendance, voire à la simple égalité, souvent dans la laïcité. Faut par exemple se rappeler de l'histoire de Messali Hadj en Algérie, de Patrice Lumumba au Congo, de Thomas Sankara au Burkina Faso. Elle est longue, la liste de cette élite assassinée, souvent au bénéfice de la seule force encore capable de fédérer une opposition, le religieux, qui a d'ailleurs parfois même été directement favorisé par les Occidentaux, puisque depuis la guerre froide, les colonisateurs anciens et nouveaux ont toujours préféré les religieux aux laïcs. Laïcs soupçonnables donc de communisme, parfois à juste titre, et parfois pas, comme pour Ben Barka, on l'a vu, que le simple fait d'être de gauche, issu et du côté du peuple, faisait passer pour un coco. On le répète, des années 50 à nos jours, sous prétexte de guerre froide et de lutte anticommuniste, partout dans le monde, les puissances coloniales USA en tête ont assassiné tout ce qui ressemblait à un leader souverainiste, laïque, progressiste, syndicaliste et évidemment communiste. Une fois ces interlocuteurs laïcs disparus, il n'est souvent resté que les dictatures installées qui permettaient de continuer le pillage des ressources naturelles et aux peuples colonisés, comme seul facteur d'opposition et de fédération, il n'est souvent plus resté que les religieux. L'histoire de l'Iran est emblématique. Dans les années 50, la plupart des pays du Moyen-Orient sont laïcs. En 1951, pour s'assurer le contrôle de ce maudit pétrole, USA et Britanniques renversent le gouvernement démocratiquement élu par les Iraniens pour le remplacer par la sanglante dictature du Shah, soutenue par la CIA, lui-même renversé par le religieux Khomeini, qui sortait d'ailleurs d'un long exil en France, qui avait bien obligeamment abrité le chef religieux pendant des années. Pour en revenir à la France, qu'auraient été nos relations avec le Vietnam si l'on avait eu l'intelligence de construire la paix avec Ho Chi Minh, francophile amoureux de nos lettres, qui considérait notre pays comme une nation grande sœur. Résultat, 9 ans de guerre d'Indochine, enchaînés avec au moins 20 ans de celle du Vietnam. Qu'aurait été la réussite de l'Algérie moderne et ses relations avec la France si cette dernière avait écouté les légitimes revendications du brillant Messali Hadj? Comment aujourd'hui s'étonner du problème islamiste en Algérie? À l'indépendance algérienne de 62, dégoûtée de la France, la dictature FLN a préféré se fabriquer une sorte d'arabité artificielle en se tournant vers les dictatures islamiques du Qatar et des Émirats, qui au passage restent des alliés de la France, tout en jouant un trouble jeu avec le terrorisme. Qu'aurait été le Maroc s'il avait été dirigé par des laïcs cultivés comme Ben Barka et non pas par une dictature monarchico-islamique? Or, le Maroc d'aujourd'hui ne repose pas sur une société civile, mais sur un seul et unique homme, un roi, que son peuple ne voit d'ailleurs plus beaucoup en public ces derniers temps. La politique occidentale d'ingérence mondiale de ces 70 dernières années ayant globalement consisté à soutenir les fascistes, comme en Amérique du Sud, ou soutenir les religieux contre les laïcs et les gens de gauche, comme Ben Barka, cette politique n'a-t-elle pas fait le lit du terrorisme, se prétendant islamique, que nous connaissons aujourd'hui? À la veille du drame que vous savez, la réponse d'André, qui n'est pas prophète, mais professeur d'histoire-géographie, a de quoi saisir.
La situation actuelle est le fruit de notre action, parce que c'est nous qui dirigeons le monde. Nous, je parle des pays occidentaux, industriels, impérialistes, etc. C'est nous.
Et pour la France, ce qu'on a appelé dans les années 30 les 200 familles. Hein.
Quand je dis nous les pays, je m'associe, parce que bon, je suis français, je m'associe à notre histoire, à notre destin. Nous avons forgé ce monde-là. Maintenant, il nous retombe dessus en plus serré. Globalement, collectivement, nous ne sommes pas innocents de cette histoire-là.
André dit « nous » car nous sommes le peuple de la République française, au nom de laquelle l'on commet depuis plus de 2 siècles et un peu partout dans le monde des crimes abominables au nom du peuple français et de la démocratie en notre nom. Crimes commis toujours pour les mêmes mobiles, fric, pouvoir, territoire, ressources naturelles. Crimes qui enrichissent toujours les mêmes, les riches, les multinationales. Crimes qui ont toujours les mêmes victimes, les peuples, y compris le peuple français, ici sur son propre territoire. L'occasion de nous poser la question de notre relation aux autres peuples de la planète qui ne sont pas naturellement à notre service. Car sans toujours nous en apercevoir, nous sommes aujourd'hui toujours imprégnés de cet esprit colonial qui nous amène à toujours trouver normal qu'une grande partie du monde et de l'humanité soit exploitée pour assurer notre confort, confort certes de plus en plus relatif pour certains. Bien entendu, on le répète, notre histoire coloniale n'explique pas tout. Elle est l'un des multiples facteurs du drame du 13 novembre. Parmi d'autres facteurs économiques, sociologiques, psychologiques aussi, tant ces massacres ressemblent aussi à ces tueries des campus américains et dont les auteurs sont généralement de pauvres types frustrés qui n'ont souvent rien à voir avec la religion. Quand André dit « nous », il rappelle que ce qui est fait au nom de la France est fait au nom des citoyens qui élisent des politiques qui devraient être nos représentants et non pas les larbins de multinationales qui n'ont d'ailleurs plus rien de française. Pour ne citer que quelques exemples des aberrations de la soi-disant diplomatie française et mieux comprendre pourquoi des gens nous font la guerre en téléguidant des paumés de chez nous, voilà quelques questions à poser à nos politiques et qui méritent réponse. Par exemple, pourquoi le dictateur Kadhafi a-t-il été l'invité d'honneur du 14 juillet 2007? Pourquoi le même Kadhafi a-t-il été liquidé peu de temps après par les services secrets français avant de pouvoir peut-être révéler à quelle hauteur il avait financé la campagne de Sarkozy? Ah ben, voilà, j'ai dit la réponse dans la question, c'est malin. Pourquoi la Libye est-elle devenue un chaos sans nom, repère de terroristes, alors qu'on y a fait une guerre en notre nom pour soi-disant y apporter la démocratie? Pourquoi les terroristes qui se prétendent islamistes, que la France combat au Mali, ont-ils parfois pu ressembler à des gens que la France a pu soutenir en Libye ou en Syrie? Pourquoi la France soutient-elle les dictatures islamiques du Qatar et d'Arabie Saoudite, régimes barbares, rétrogrades, qui jouent un double jeu avec les terroristes, voire même les finances? Si vous avez une voiture, êtes-vous bien certain que l'essence qui l'a fait tourner ne vient pas d'un puits de pétrole contrôlé par Daesh? Car pour toucher 2 à 3 millions de pétrodollars par jour, il faut bien que Daesh l'écoule, ce pétrole. Qui le lui achète? Allez, encore une dernière pour rire. Si vous êtes Charlie, pourquoi le dictateur Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, dictateur du Gabon, était-il lui aussi Charlie à la manif de janvier 2015? Les citoyens français ont encore le droit de se demander ce que l'on fait en leur nom. Et lutter contre le terrorisme passerait aussi par poser les bases d'une relation plus saine avec le reste du monde. On en a déjà beaucoup parlé dans d'autres émissions que vous pouvez réécouter sur notre site www.polemix-et-la-voix-off.com. On en reparlera hélas encore bientôt sur cette même antenne. Et on remercie encore Le Monde Diplomatique, qui est l'un des rares journaux à faire un vrai travail d'information. Salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.